Bonjour et bienvenue sur Ancamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 3, attachez vos ceintures. Je vous embarque dans ma DeLorean pour un retour vers le futur. En parallèle des nouveaux invités, je redonne le micro aux Ancamgrammeurs pour qu'ils me racontent l'évolution de leur métier depuis le passage sur le podcast. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Bonjour Robin, comment vas-tu ?
Salut Darina, bah écoute, ça va très bien, je suis très content d'être là.
Bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation en tout cas pour venir au micro de Ancamgram.
Avec plaisir, vraiment grand plaisir.
Et je passe le bonjour à Laure Anne qui nous a mis en relation. Elle est comme toi chez Open Classrooms et me concernant, nous étions camarades de promo chez John Lyon. Donc salut Laure Anne.
Salut Laure Anne. Et ouais, Laure Anne fait partie des têtes pensantes chez Open Classrooms. Elle est dans notre équipe d'ingénierie pédagogique.
Waouh. Bon, bah écoute, tu vas nous en dire un peu plus sur la nomenclature de vos équipes, puisque donc, pour remettre un peu de contexte, toi, Robin, tu travailles depuis bientôt 2 ans chez Open Classrooms, un site dont la mission est de rendre l'éducation accessible. Tu as démarré en tant que BDR, puis tu as évolué sur le poste aujourd'hui de Strategic Account Manager. Donc, hâte que tu nous en dises plus sur ton métier. Mais avant de commencer, peux-tu me dire, Robin, quel est ton plat préféré ? C'est pour mes stats perso.
Oui, bien sûr. Alors, mon plat préféré, c'est un peu particulier. Ça s'appelle les chipirons. C'est un plat à base de calamar cuit en sauce à la plancha. C'est un plat du sud-ouest.
Ah, ça sent le barbecue, là. Déjà, je sens déjà la fumée qui vient jusqu'à mes narines, tu vois.
C'est ça.
Trop bien. Eh bien, écoute, à présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Super, bah écoute, donc Robin Espias, moi j'ai 29 ans aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit, j'ai rejoint Open Classrooms il y a bientôt 2 ans. J'ai été BDR, donc sur un poste plutôt de prospection. Et aujourd'hui, je suis Strategic Account Manager, donc sur les grandes entreprises, je pense qu'on en reparlera. Et voilà, pour revenir sur l'historique, moi j'ai une formation assez classique. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'IESEG, à la suite de laquelle j'ai rejoint une petite start-up qui s'appelait Windu, qui s'appelle toujours Windu, dans la qualité de vie au travail. Et ensuite, j'ai transitionné chez Open Classrooms.
Trop bien. Est-ce que tu as des passions perso ?
Ouais, écoute, j'adore le surf, j'adore la boxe et j'adore la cuisine, d'où les chipirons.
Tout à fait. Et d'où, après l'effort, le réconfort, quoi.
Exactement, exactement.
Trop bien. Alors, je te propose d'attaquer le vif du sujet en commençant par la partie métier. Est-ce que tu peux me repitcher rapidement peut-être Open Classrooms, parce qu'il me semble que vous avez une mission très forte.
Ouais, Open Classrooms, c'est une entreprise à mission et effectivement, c'est assez fort. Ça se traduit par pas mal de choses. On a un comité d'impact. Nos actions sont assez regardées par le board de ce point de vue-là. Donc, la mission, c'est de rendre l'éducation accessible. C'est vraiment au cœur de notre ADN. On est une école en ligne, on accueille des étudiants à ce titre-là, plusieurs milliers d'étudiants, mais on est aussi un organisme de formation en ligne, puisqu'aujourd'hui, on accompagne les entreprises de toute taille dans leur sujet de transformation digitale, à travers des dispositifs de formation, de reformation et de recrutement.
Et aujourd'hui, vous êtes combien ?
On approche des 350. Pour te donner un petit peu de passif, quand moi j'ai rejoint Open Classrooms, donc septembre 2019, on était 180, donc on a doublé quoi.
Chouette, magnifique. Et une levée de fonds aussi, si j'ai bien suivi l'actualité.
Tu as bien suivi l'actualité, on a levé 70 millions d'euros il y a quelques semaines auprès de différents fonds et on est très fiers d'avoir accueilli la fondation Chan Zuckerberg, donc de Mark Zuckerberg lui-même, dans notre actionnariat.
Du lourd. Alors, est-ce que dans toutes ces belles success stories, tu peux me décrire, alors plus particulièrement, comment ça se passe chez vous côté business ?
Oui, bien sûr. Alors, je vais me concentrer sur le business B2B d'Open Classrooms, que chez nous, on appelle employer. Donc, vraiment les relations avec les entreprises et avec les écoles, puisque les écoles sont aussi des clients chez nous. Donc, Notre équipe, elle est structurée en différents pôles. On a un pôle BDR dont le rôle, comme dans beaucoup d'entreprises, est de faire de la prospection. Donc, ça passe par du mailing, du cold calling, etc. Et donc, de générer des opportunités pour les stratégiques account managers chez qui je suis aujourd'hui. Nous, on prend la relève à partir des premières étapes de qualification main dans la main avec les BDR pour ensuite mener les discussions à leur terme, c'est-à-dire signer des contrats. À partir de là, on travaille main dans la main cette fois avec une équipe Customer Success Management. Donc chez nous, on va vraiment bien distinguer l'expertise stratégique qui est plutôt de notre côté, c'est-à-dire conseiller sur les bons dispositifs à mettre en place, et l'expertise opérationnelle, donc de l'adoption, qui est du côté des Customer Success Managers.
Hyper limpide. Et donc toi, concrètement, ton poste de Strategic Account Manager consiste en quoi ?
Alors, au quotidien, je vais travailler avec mon BDR avec qui je suis en binôme. Il s'appelle Antoine, je lui passe le bonjour au passage, pour identifier les comptes les plus stratégiques dans mon portefeuille, pour avoir une stratégie d'approche et s'assurer qu'en fait, on a les bons rendez-vous avec les bonnes personnes et qu'on peut démarrer les bonnes discussions. Ça, c'est une partie de mon travail. Je vais aussi prospecter moi-même, puisqu'aujourd'hui, pour des simples raisons de volume dans une équipe et de volume dans l'autre, les BDR ne génèrent pas 100% de nos opportunités. Donc, on va aussi prospecter au quotidien. Et ensuite, c'est des étapes de qualification de besoins, de création de propositions, potentiellement de réponses à d'appels d'offres quand c'est pertinent. Et ensuite, on a toute une partie suivi des clients, puisqu'aujourd'hui, suivi opérationnel, il est fait par les Customer Success Managers. Mais dans le cadre de leur mission, ils vont être en mesure aussi d'identifier des besoins additionnels pour faire ce qu'on appelle l'expansion de compte, donc d'étendre nos partenariats avec nos clients. Et nous, on va également être au contact de manière un peu moins fréquente et en général à un niveau un tout petit peu plus stratégique avec nos interlocuteurs pour faire des bilans réguliers qu'on appelle chez nous des quarterly business review et identifier aussi des besoins additionnels.
Donc toi, tu es vraiment au cœur du réacteur, si je comprends bien.
Je pense que toutes les équipes d'Open Classroom sont au cœur de leur réacteur. Parce que toutes les équipes ont une mission bien précise, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un rôle assez transverse. Je l'ai pas mentionné, mais on travaille aussi beaucoup avec nos équipes pédagogiques, nos équipes produits pour construire des propositions, répondre à des besoins.
Complètement. Alors ça, je vais revenir un petit peu après, juste pour revenir en fin de compte sur les différents maillons de la chaîne. Si je prends en amont, tu as parlé des BDR, notamment Antoine, avec lequel tu travailles. Comment est-ce que vous allez collaborer ? Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'Antoine va en fin de compte te planifier des rendez-vous dans ton agenda avec des prospects. Toi aussi, tu vas venir alimenter ton agenda avec des prospects. Comment ça se passe là ? En fait, la transmission d'informations entre vous deux, quels outils est-ce que vous utilisez ? Et la petite question bonus aussi, ça dure combien de temps un cycle de vente chez vous ?
Très bonne question. Comment est-ce qu'on collabore ? Donc effectivement, ça passe tout d'abord par identifier les bons comptes à targeter, c'est-à-dire les plus stratégiques pour nous. Ça peut être une question d'industrie, de taille, de problématiques aussi qu'on identifie. Ensuite, c'est identifier les bons interlocuteurs au sein de l'entreprise. Donc, c'est du mapping. C'est trouver les interlocuteurs stratégiques, les interlocuteurs peut-être plus opérationnels qui vont nous donner de l'info, par exemple. Et ensuite, c'est avoir la bonne approche. Et ça, c'est l'expertise d'Antoine. C'est d'aller écrire les bons mails, d'avoir le bon discours au téléphone pour accrocher l'intérêt de ses interlocuteurs et générer des rendez-vous. Et ensuite, on a tendance à faire les premiers rendez-vous ensemble pour qualifier le besoin, et ensuite, en général, je vais le reprendre.
D'accord.
Tu m'as posé une deuxième question, excuse-moi, j'ai un trou.
Sur les outils et aussi sur la durée du cycle de vente.
Les outils qu'on utilise, alors nous, on est très Salesforce, c'est assez central chez nous, et de plus en plus, on essaye de structurer notre usage, puisque la data, comme pour toutes les boîtes, je pense, est assez stratégique pour nous. Donc voilà, c'est principalement Salesforce. Ensuite, on fait de la visio, du call, etc.
Ok.
Tu peux me rappeler ta dernière question encore une fois, excuse-moi.
Et le cycle de vente, dure combien de temps ?
Et le cycle de vente, c'est assez variable. On va dire que pour des projets intéressants, impactants pour une entreprise, il faut compter 6 à 9 mois.
6 à 9 mois. Ok, très clair. Alors, donc là, on a vu la partie en amont, puisque j'ai bien compris que toi, tu jouais le rôle à la fois de ce qu'on peut appeler dans certaines entreprises account executive ou key account manager, puisque tu vas faire de la prospection et tu vas closer le deal. Mais je crois que tu vas un peu plus loin, puisque tu commences d'ores et déjà à faire le suivi de ton compte. Alors, du coup, ma question, c'est où s'arrête ton onboarding et où commence la transition avec le CSM ?
Bonne question. En fait, je pense que c'est beaucoup aussi une question de maturité d'un service commercial, c'est-à-dire que le nôtre a quelques années seulement, entre guillemets, sur une existence d'un peu plus d'une vingtaine d'années d'Open Classrooms. Donc aujourd'hui, on n'est pas spécialisé entre account exec et account manager. Demain, ce sera peut-être le cas, mais c'est vrai qu'on a cette polyvalence-là. Mon rôle, donc tu l'as compris, il débute avec Antoine, mon BDR, ce travail main dans la main, et ensuite à partir du moment où moi je vais contractualiser un partenariat, donc signer un contrat avec mon client, c'est là que ça va passer au customer success. Moi je vais toujours être là pour les discussions ponctuelles, stratégiques et d'expansion de compte, mais au quotidien et pour l'adoption et le bon déroulement des partenariats, là, c'est vraiment le Customer Success Management qui a cette expertise, en fait.
Et toi, quand tu dis que tu t'occupes de l'expansion du compte ou même lors de tes réunions trimestrielles, quels sont les points que tu vas voir ou quelles sont les questions que tu vas poser à tes clients ?
Écoute, en général, ce type de réunion, ça se déroule en plusieurs étapes. Il y a évidemment un premier bilan sur le quarter, le semestre ou l'année qui s'est passée. L'objectif, c'est d'en tirer des leçons aussi. On est très, très partisan des lessons learned chez Open Classrooms. Donc, tirer les leçons du partenariat et comment est-ce qu'on peut faire mieux, toujours. On n'est jamais parfait. Hein. Et ensuite, effectivement, c'est faire un point sur les grands enjeux du partenaire à l'instant T et pour les mois ou années à venir. Les grandes problématiques et est-ce que nous, on peut avoir un rôle à jouer pour répondre à ces problématiques-là.
Ok. Et la relation entre les strategic account managers et les CSM, ça va ? Vous ne marchez pas trop sur les pieds ?
Non, pas du tout. C'est assez organisé. Dès que les questions de nos partenaires sont plutôt sur des problématiques opérationnelles, ça tombe chez le CSM. Quand on a une question plutôt contractuelle, commerciale, liée à un besoin complémentaire, c'est là que nous, on va réintervenir. Ça se passe assez bien, ça demande d'avoir une très bonne communication et une bonne proximité entre les équipes.
Du coup, pour faciliter cette communication, vous faites des réunions, comment vous organisez ?
Ouais, on a des touch points toutes les semaines, d'équipe à équipe, et ensuite c'est des points supplémentaires aux besoins quand on a un client particulièrement stratégique ou une échéance importante sur un client. On va évidemment se parler, que ce soit voilà visio, Slack, réunion, etc. pour être sûr de bien communiquer entre nous. C'est très important.
Oui, complètement. Et puis comme tu disais aussi, bien faire le distinguo côté client sur qui fait quoi.
Ouais, c'est extrêmement important de pouvoir bien clarifier ce point-là et en général, c'est vraiment le sujet de la première réunion de mise en place, c'est un onboarding qui est présenté par le Customer Success Manager pour bien se positionner en expert sur la mise en place.
Très bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes KPI ?
Oui, alors chez nous, c'est très simple. Moi, j'ai une KPI principale, c'est le CA que je génère pour mon entreprise. Donc, c'est un CA annuel et puis ensuite, on le redivise en trimestre. Ensuite, on va avoir un certain nombre d'objectifs secondaires. Ça passe par l'hygiène CRM, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vital pour une entreprise comme la nôtre. Il y a beaucoup de choix stratégiques qui sont faits sur la base de la donnée. Donc, il faut que cette donnée elle soit propre. Donc, il faut que nous, on soit en mesure de bien remplir notre CRM, bêtement. On va aussi du coup avoir des objectifs qui sont moins écrits noir sur blanc mais qui restent importants évidemment sur les renouvellements, donc éviter le churn, sur la satisfaction client. On a aussi des méthodes d'évaluation de nos étudiants directement par le NPS. Donc c'est le taux de recommandation et c'est des choses qu'on peut faire passer chez nos clients également pour valider que les apprenants de nos clients, donc les salariés, sont bien satisfaits de leur formation.
Est-ce qu'il existe un suivi de l'usage de justement ces apprenants? Parce que toi, j'imagine que tu vas, grâce à la data, pouvoir peut-être détecter en amont des risques de churn. Comment est-ce que tu procèdes?
C'est encore une très bonne question. Oui, nous, on a toute cette donnée et ça fait partie de nos arguments commerciaux forts parce que c'est aujourd'hui vital pour les entreprises qui mettent en place des dispositifs et qui investissent dans leurs salariés de vérifier que l'investissement y porte ses fruits, qu'il les place au bon endroit, etc. Donc, toutes ces données, on les a. C'est ce qui va aussi nous permettre, nous, d'être force de proposition envers nos clients sur des actions à mener pour améliorer l'usage. Et ça, cette expertise, elle est partagée, mais quand même pas mal du côté Customer Success Management. Et ensuite, effectivement, on va bien voir sur les taux d'activation si on est à risque, s'il faut prendre des actions correctives, si non, tout va bien, etc.
Oui, tout à fait. Est-ce que le KPI le plus simple à atteindre, c'est pas quand même l'hygiène CRM? Enfin, ça va.
Bah, on dirait, et franchement, je t'invite à poser cette question-là à d'autres account exec ou account manager dans leur boîte. Je pense que ça varie, mais c'est toujours un petit défi. Moi, de l'expérience que j'ai, et moi-même en tant que sales, c'est pas toujours facile d'être à 100% clean sur toutes les infos de chaque compte, etc. Donc, c'est un vrai combat qui est mené par les managers des équipes commerciales, de ce que je vois. Ouais.
Et ce qui serait top, tu vois, on parle tellement avec eux par téléphone ou par visio, limite, il faudrait qu'il y ait un transcripteur de notes pour être sûr de rien oublier, tu vois.
Ça, c'est à la fois un fantasme, je pense, pour beaucoup de commerciaux. Et puis après, tu as l'aspect surveillance qui est souvent soulevé. Tu as des acteurs comme Gong ou Mojo qui font ça, qui analysent les calls des sales pour en tirer des bonnes pratiques, de la data, etc. C'est assez récent, j'ai pas un avis marqué là-dessus, mais c'est intéressant en tout cas.
Carrément. Alors, je te propose à présent de passer, à la partie client, puisque je meurs d'envie de savoir un peu plus. Tu as parlé, de ton portefeuille, tu as parlé des enjeux clients. Est-ce que tu peux me détailler tout ça?
Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je fais partie de l'équipe Enterprise dans les Strategic Account Manager. Donc, ça veut dire que je travaille plutôt avec les équipes au-dessus de 5 000 salariés. Ça peut être du CAC 40, ça peut être des entreprises un peu plus petites, mais c'est en général au-dessus de 5 000 salariés, avec quelques exceptions. On a des colorations de portefeuille. Moi, je le dis comme ça, c'est-à-dire qu'on a quelques spécialisations sans que ce soit non plus une règle d'or. Donc moi, je vais travailler par exemple avec plutôt le secteur des mutuelles, je travaille pas mal avec les ESN, le consulting et les écoles. Des clients, alors dans mon portefeuille, je vais avoir environ 150 comptes et dans ces 150 comptes, aujourd'hui, j'en ai une trentaine qui sont clients.
Ok.
Les enjeux qu'ils rencontrent, ça va être autour de la transformation digitale. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est pas très précis. Mais c'est la transformation digitale qui va impacter les métiers de nos clients, qui va soit faire disparaître certains métiers parce que, par exemple, ils sont automatisés, et de l'autre côté, nos clients vont avoir du mal à recruter sur des métiers très en tension, le développement, la data, etc. Donc nous, on va s'occuper en fait de faire un pont entre les métiers en disparition et les métiers sur lesquels il y a des besoins, en reformant leurs collaborateurs ou en formant leurs collaborateurs sur ces nouveaux métiers, par exemple.
Ouais, c'est ça la question que je me posais, c'est quel est le point de départ? Est-ce que tu analyses le marché pour créer, alors je dis pas toi forcément, je sais qu'il y a l'équipe pédagogique dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est l'équipe pédagogique qui va créer les formations en fonction des besoins du marché ou est-ce que c'est toi qui vas prendre les besoins de tes clients avec leurs enjeux très précis pour faire une demande de formation sur mesure?
Alors, il faut savoir qu'effectivement, on a une équipe pédagogique, dont Laurane, dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement éduquée sur le marché du travail et sur les métiers en tension aujourd'hui et à venir. Tous les parcours qu'on crée aujourd'hui sont créés sur la base d'une analyse du marché du travail et des compétences et des métiers qui vont être en tension. Donc, en théorie, on est en mesure de répondre à tous ces besoins-là sur les métiers en tension chez nos clients. En tout cas, une grande partie, et c'est l'objectif.
Oui, c'est donc, censé se rejoindre, finalement.
Voilà, exactement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est effectivement qu'on va aller qualifier le besoin de nos clients, comprendre exactement quel est leur enjeu, leur objectif d'arrivée et les profils de départ de leurs salariés, par exemple, dans ce cas-là. Et notre objectif, c'est de mettre en face les bonnes formations. On est capable de proposer des solutions un petit peu modulaires parce qu'on peut découper certains parcours, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amener du point A identifié au point B, qui est la stratégie de l'entreprise, les salariés.
Donc, si je comprends bien, ton client en entreprise va te dire, voilà, nous, on travaille sur telle problématique en ce moment et toi, tu vas être force de proposition pour aller tout de suite rechercher dans le catalogue des possibles la formation qui lui correspondra le mieux.
Exactement, on va proposer là où les formations, parce qu'on va souvent travailler sur des populations plutôt qu'au niveau individuel. Donc on va pouvoir identifier des populations qui ont plutôt des métiers en voie de disparition, on va dire, dans les entreprises, et on va vouloir leur proposer des formations qui sont adaptées à leur profil, qui vont être capables de mener à bien, mais surtout qui vont les repositionner sur des métiers en tension sur le marché du travail. Comme ça, on leur redonne leur employabilité. C'est ça notre mission, c'est de maintenir et de développer l'employabilité des salariés en B2B.
Alors, si je prends un exemple très terre à terre, enfin, par exemple, est-ce que tu pourrais pousser la même formation à un client d'une mutuelle qu'à un client d'une ESN? Enfin, ça n'a pas l'air si proche que ça, quoi, à première vue.
Et alors, c'est une très bonne question. Effectivement, oui, on va pouvoir pousser les mêmes formations à ces clients-là, puisqu'aujourd'hui, quand tu es data analyst dans une mutuelle ou data analyst dans une ESN, tu as le même socle commun de compétences. Ensuite, effectivement, il y a une contextualisation qui se fait en fonction du secteur de l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait en fait à l'expérience, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour une entreprise de parier sur quelqu'un qui fait déjà partie de son effectif, qui connaît le secteur, qui connaît les métiers de l'entreprise et de son secteur, et simplement de leur apporter les compétences métiers en plus de ça.
Et c'est quoi les thématiques ou les métiers alors les plus plébiscités par les clients en 2021, par exemple?
Les métiers les plus en tension, je pense que c'est assez facile de répondre. La data, que ce soit data analyst, data engineer, data scientist, tous les métiers du développement, on le sait, ça fait des années et pourtant ça ne s'arrête pas, c'est toujours très très en demande. Tout ce qui concerne la gestion de projet également, donc plutôt les métiers de product owner, de scrum master, c'est des métiers qui sont très très en demande, donc à la fois en recrutement et en formation.
Ok, ah ouais, bah tu vois, moi j'ai beaucoup de clients côté Welcome to the Jungle qui recherchent en ce moment des business développeurs. Alors pour moi, c'est un métier qui ne connaît pas le chômage, mais j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de pénurie de ces profils-là.
Ouais, c'est vrai que les métiers du business development, ils sont aussi très en demande. Historiquement, on était un peu moins positionné dessus puisque nous, notre cœur de métier, c'était le développement, la data, etc. Et aujourd'hui, on est en train de développer, on a un parcours diplômant sur ces métiers-là et on est en train de développer notre offre là-dessus parce que, effectivement, ça fait partie des métiers en tension.
Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une problématique adressée par un de tes clients?
Qu'est-ce que je peux avoir? Je travaille avec un groupe de mutuelles et comme beaucoup de mutuelles aujourd'hui, ils ont des enjeux sur la data particulièrement. Ils vont analyser les différents niveaux de besoins de leurs stakeholders, c'est-à-dire qu'il y a différents profils. Il y a des personnes qui vont devoir produire des résultats parce que leur métier, leur cœur de métier, c'est la data. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre des décisions basées sur la data. Ou inversement, il y a des personnes qui vont simplement avoir besoin de s'acculturer à qu'est-ce que c'est que la data, qu'est-ce que ça veut dire que le machine learning, etc. Donc selon les niveaux de besoins qu'ils vont identifier, nous, on va être en mesure de les accompagner sur des niveaux de formation soit allégés, certifiants, diplômants, etc.
Waouh! Trop bien. Merci pour cet exemple.
Avec plaisir.
Alors, je te propose de passer à la dernière partie du retour d'expérience. Peux-tu, Robin, me raconter une anecdote gratinée dans ton parcours?
Je t'ai mentionné tout à l'heure que j'ai commencé dans une petite start-up qui s'appelait Windu, donc qualité de vie au travail. Donc en fait, j'ai commencé concrètement par vendre des cours de boxe en entreprise. Une fois que ces cours de boxe étaient vendus, comme on était une petite boîte, j'étais le premier salarié, il fallait aussi livrer le matériel. Donc, en fait, je prenais ma petite moto à Paris, je faisais le tour du périph avec un sac de voyage sur le dos qui contenait des gants de boxe et j'allais livrer des gants de boxe à mes clients. Donc voilà, long chemin parcouru depuis.
Ça doit être insolite dans les bouchons sur le périph.
Ouais, j'ai eu des périodes assez intéressantes sur ma moto là-dessus.
Et parce que le métier de Strategic Account Manager n'est pas rose tous les jours, est-ce que toi, il y a un cas de figure qui te paraît assez compliqué au quotidien ou une situation?
Écoute, au quotidien, je sais pas, mais effectivement, une situation un peu complexe. Moi, ce que j'ai découvert en arrivant en enterprise, c'est les négociations et les négociations longues et complexes qu'on peut avoir avec quand on parle de contrats très importants et de clients pour lesquels c'est des enjeux stratégiques. Et donc, il y a beaucoup d'aspects différents qui peuvent rentrer dans une négociation. Il y a évidemment le prix, mais il y a pas mal d'éléments contractuels, d'engagement, etc. Donc moi, la leçon que j'ai retenue de mon dernier épisode de Stipla, c'est qu'effectivement, c'est important quand on rentre dans une négociation, surtout dans une négociation en plusieurs rounds, ce qui arrive souvent, d'avoir une bonne visibilité sur ton objectif, ton seuil de satisfaction, donc le moment où tu vas être satisfait du contrat que tu signes, et le no-go, donc les conditions dans lesquelles tu t'embarqueras pas. C'est facile à dire, mais quand on est sur des contrats qui ont une certaine envergure, les règles bougent un peu, et donc c'est important d'avoir cette visibilité-là.
Comment tu fais pour chouchouter ton sponsor côté client?
Écoute, moi, je suis beaucoup dans le relationnel, donc j'aime bien, je suis assez curieux des gens, donc j'aime bien passer du temps à discuter avec mes clients. Ça peut être sur d'autres choses que simplement les projets qu'on met en place ensemble. Ensuite, eh ben, écoute, quand ce sera revenu à la mode, donc je pense assez vite, on va pouvoir, ben, je sais pas, faire des restos, passer un peu de temps ensemble et se voir en vrai.
Yes, vivement.
Ouais.
Quel conseil est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne lorsque tu as démarré ce métier de Strategic Account Manager?
Ce métier-là, il est fait de haut et de bas. Il y a des moments pendant lesquels tout va bien se passer et les contrats vont se signer facilement, il va y avoir des bonnes surprises, etc. Il y a aussi des périodes de vache maigre où ça ne se passe pas pour plein de raisons. Il y a des offres qui sont saisonnières, il y a pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc ça, c'est un aspect. Et je pense aussi que le vrai conseil qu'on aurait pu me donner, je pense, c'est qu'en tant que sales, quand tu as un peu d'ancienneté dans une boîte et que tu as un portefeuille client qui a été bien travaillé, tu peux assez vite te reposer sur tes acquis et pas forcément t'intéresser à d'autres choses. Je prends cet exemple parce que je pense que dans mon dernier job, j'aurais pu changer un petit peu plus vite plutôt que de rester dans une zone de confort où au final, tu n'accomplis plus grand-chose, tu n'as plus de challenge et tu tournes un petit peu en rond.
Trop bien. Du coup, le fait de sortir de ta zone de confort, c'est quoi? C'est de te mettre en danger, de vouloir découvrir des nouvelles compétences?
Ouais. Alors sortir de sa zone de confort, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est le fait d'aller t'intéresser à d'autres modèles, d'autres boîtes, et effectivement te remettre un petit peu en question et peut-être prendre un peu plus de risques pour au final voilà évoluer, apprendre. Moi, je suis chez Open Classrooms parce que ma conviction personnelle, elle est que tant que tu apprends, a priori ton job va bien se passer. En tout cas, c'est le cas pour moi. C'est ma motivation principale. Donc c'est très important pour moi d'avoir toujours des nouvelles choses auxquelles je suis confronté.
Ah, je ne peux que valider.
On est d'accord.
Comment va, selon toi, évoluer notre beau métier d'account manager dans les prochaines années?
Écoute, je pense que ce qu'on a vécu la dernière année va quand même changer durablement les usages. Je pense qu'on va avoir un travail qui va passer encore beaucoup par la visio, d'autant plus quand on est dans un secteur comme moi qui est sur le digital et le distanciel. Donc je pense qu'il va évoluer dans ce sens-là. Pour l'anecdote, moi j'ai pris ce pari-là puisque j'ai déménagé il y a un mois à Bordeaux, alors que la plupart de mes clients sont situés à Paris et que mes bureaux aussi, accessoirement. Parce que mon entreprise m'en donne la liberté et du coup voilà. Donc je pense que surtout dans les premières phases de découverte, de présentation, on passera encore beaucoup par la visio auprès de nos clients. Même si nous on est toujours content d'être en présentiel parce que c'est comme ça que tu crées du lien et que t'as aussi des discussions peut-être un peu moins cadrées.
Et t'es vraiment chanceux, toi, Bordeaux, punaise.
Ouais, c'est vraiment une grande chance et je suis très reconnaissant à Open Classrooms de nous permettre ça. Un deuxième point, je pense, sur lequel le métier va évoluer, c'est qu'aujourd'hui, l'information est quand même accessible assez facilement pour tous et donc pour des acheteurs d'entreprises aussi. Donc, on est beaucoup moins dans une posture de donner de l'information sur nous, nos formations, sur nos pricing, plutôt que d'accompagner et d'avoir un rôle de conseiller auprès de nos clients. Au fur et à mesure de nos projets, on affine une vision par industrie, par type de problématique. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'en tant que sales, on apporte de la valeur. C'est l'expérience qu'on gagne à mener ce type de projet.
Ouais, c'est pas l'information en tant que telle, mais c'est la manière dont tu vas la délivrer et dont tu suis le compte, si je comprends bien.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, tu rentrais dans un magasin pour acheter un produit et en fait, tu allais demander au vendeur quel type de téléphone il a, à quel prix et quelles sont les features du téléphone. Aujourd'hui, ça, tu peux le trouver en ligne. Donc maintenant, c'est plus une posture de conseiller. C'est en fonction de ton usage, c'est en fonction de tes objectifs, etc. Et ça, c'est très, très important. Et je pense que c'est comme ça qu'un sales va réussir dans les années à venir. En tout cas, c'est ma vision à moi.
Oui, vraiment la connaissance client au-delà de la connaissance produit.
Oui, bien sûr.
Alors, je termine avec ma question rituelle. Quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi ?
Alors moi c'est Le Seigneur des Anneaux, moins pour le titre que pour l'histoire, parce que pour moi quand tu travailles en enterprise, donc auprès des grands comptes, t'as une espèce d'épopée comme ça, comme Frodon qui va remettre son anneau dans le volcan, où tu vas passer par des montagnes, par des caves, par des marécages, comme nous on va passer par différents interlocuteurs. Et tu vas également avoir des alliés avec toi qui sont les différentes équipes de ta boîte. Et donc voilà, je suis assez fier de mon analogie. Pour moi, c'est vraiment ça le métier du strategic account manager.
Waouh, ah oui, une véritable épopée en fin de compte. Tu ne ménages
pas
tes efforts.
C'est une grande épopée. C'est des cycles de conversion longs. Ça regroupe en général beaucoup d'interlocuteurs. C'est des gens qu'il faut suivre, avec lesquels il faut avoir une certaine proximité. Et ouais.
Top. Bah écoute, merci beaucoup Robin. C'est très clair et en tout cas, je te souhaite de continuer d'apprendre au quotidien et je vais vraiment m'inspirer de tout ce que tu as dit pour la suite. Donc un grand merci à toi.
Merci à toi Darina. C'était
à
très
bientôt,
sympa de m'inviter.
Salut.